Nous avons retrouvé Maxime Carbonneau qui est avec nous pour nous parler de la pièce « Si jamais vous nous écoutez ». Bonjour, Monsieur Carbonneau.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous avez eu envie de faire vivre au public en créant avec votre complice, faut pas l'oublier, Laurence Dauphinet, la pièce « Si jamais vous nous écoutez ».
Oui, mais en fait, ce qu'on essaie de transmettre avec ce spectacle-là, c'est un peu une expérience du cosmos, ce qui a été le cheval de bataille de Carl Sagan toute sa vie, d'essayer de transmettre une espèce de sentiment d'humilité qui vient quand on se met en relation avec l'infini du cosmos, l'infini temporel, puis l'infini physique du cosmos. C'est un peu ça qu'on essaie de transmettre avec le spectacle.
Quand vous parlez de Carl Sagan, c'est l'astronome, là.
Oui.
Oui. Alors, avec votre complice, comme je le disais tantôt, Laurence Dauphinet, vous avez écrit, entre autres, la pièce Siri. Et maintenant, oui. Vous nous revenez avec « Et si vous nous écoutez ». Est-ce qu'il y a des similitudes entre les pièces?
Il y a peut-être une similitude dans notre utilisation de la technologie. Siri a été coécrite avec l'intelligence artificielle d'Apple, donc ça a été un long processus de marche à tâtons à essayer de voir c'est quoi ce répertoire-là de réponses de Siri, quels mots-clés les déclenchaient, puis le spectacle s'est construit en relation avec celle-ci. Cette fois-ci, ben pour si jamais vous nous écoutez, on a créé une application qui est disponible sur iPhone, oui. Puis sur Google Play, qui sert de prologue au spectacle, qui permet aux spectateurs de se mettre au même diapason de l'exploration spatiale des années 70, puis d'entrer un peu dans l'inconscient du comité qui a créé le Golden Record, qui a été fixé sur les sondes Voyager. Et cette application-là nous permet de poser aux futurs spectateurs ces questions-là sur quel morceau de musique on archiverait de l'humanité, quelle salutation on voudrait envoyer à une civilisation extraterrestre, par exemple, ou quelle image, quelle chanson, etc. Et tout ça se retrouve dans le spectacle, à la représentation à laquelle les spectateurs vont assister.
Et pourquoi vous avez eu envie d'exploiter tous ces thèmes dans une pièce de théâtre?
En fait, c'est venu, la genèse du projet est venue, Laurence, il y a quelques années, est tombée sur un épisode de Radiolab qui est un balado où il interviewait Anne Druyan, qui a été la dernière épouse de Carl Sagan, qui était aussi sur le comité du Golden Record. En fait, ils se sont rencontrés pendant les délibérations, quand ils ont créé le disque. Puis en même temps, moi, je suis tombé sur un article qui relatait la difficulté de la NASA de réactiver les réacteurs des sondes Voyager pour réaligner l'antenne avec la Terre. Puis il y avait cette grande difficulté technologique-là de faire parler les ordinateurs d'aujourd'hui avec les ordinateurs de l'époque. Et il y avait dû réengager des ingénieurs des années 70 pour réussir à réussir cet exploit-là. Puis je trouvais ça fascinant qu'on se retrouve, qu'on ait créé cette archive-là de l'humanité qui a une espérance de vie de 5 milliards d'années, là, ce qui est plus que le Soleil et la Terre. Et que 40 ans plus tard, on ait de la difficulté à communiquer avec parce que on a évolué sur Terre. Mm-hmm. Donc cette tension-là nous fascinait. Puis ça a été ça l'étincelle du projet.
Alors, sur scène, on trouve Robin-Joël Coul dans le rôle de Carl, oui. Sagan, Simon Landré-Désy, Olivier Morin, Évelyne Rompré et Farah Thibault. Et oui. Ça prend forme de quelle façon? Parce que ça a été réfléchi en deux temps, de deux manières?
Au début du spectacle, les acteurs se présentent tels qu'ils sont. C'est les acteurs qui s'adressent au public, chargés de cette espèce d'angoisse face à la disparition qui viendra ou qu'on essaie de repousser, la disparition de notre espèce, parce que oui, les changements climatiques, les guerres qui refont surface, puis il y a cette espèce de de similarité entre notre angoisse de disparaître d'aujourd'hui et celle des années 70, au moment où ils ont créé le Golden Record, en pleine guerre froide, où il y avait 60 000 armes nucléaires dans le monde, au moment où ils ont créé le disque. C'est un acte d'union aussi, où le comité a mis en plein cœur du disque des morceaux de musique du Bloc de l'Est. C'est un acte de réconciliation. Puis c'était la première fois aussi que l'humanité portait un seul visage, parce que avec le recul du cosmos, mais si on se présente à une autre civilisation, ben il faut se présenter derrière un seul visage. Puis ça nous a assez intéressés, parce qu'on est dans une époque où on valorise beaucoup les paroles individuelles, puis on est beaucoup dans le discours identitaire, ce qui est très bien parce que ça nous permet aussi de questionner aussi les rapports de pouvoir qu'à notre époque. Mais il y a ce comité-là qui dans les années 70 a réfléchi à un acte de grande inclusion et de diversité pour que justement que tous les humains puissent se projeter dans cet objet-là. Mm-hmm. Donc il y a ces cinq acteurs-là qui se mettent à écouter le Golden Record, et en écoutant le Golden Record, ils se mettent à jouer les situations, les scènes de délibération des membres du comité.
Et selon vous, est-ce qu'il faudrait reconstruire un Golden Globe, Golden Record 2.0?
En fait, on s'est vraiment posé la question, puis vraiment... Notre réflexe, ça a été de se dire que ce disque-là était désuet parce que ça a été fait par des Américains dans les années 70. Puis à force de creuser avec des musicologues, avec les acteurs, on réalise que si on faisait un disque aujourd'hui, le processus pour mener vers la création du disque serait évidemment différent, mais son contenu lui ressemblerait beaucoup. Puis, en fait, c'est très intéressant de se dire que des morceaux de musique traditionnelle péruvienne, par exemple, parlent de moi aussi. Tout comme Bach, qui a écrit de la musique à une autre époque, parle de moi aussi. Mm-hmm. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de transmettre au public, cette curiosité-là. Puis, oui. Puis à essayer de se projeter dans des objets qui ne semblent pas nous représenter directement.
Et il reste quelques secondes, Maxime Carbonneau. Le spectacle a été pensé pour quel type de public?
En fait, c'est un public général. On a la chance à Denise Pelletier d'avoir des publics étudiants qui vont venir voir le spectacle, mais c'est vraiment ouvert à tous les publics. On essaie d'en faire un truc assez universel.
Alors, vous nous intriguez. On ira faire un tour au Théâtre Denise Pelletier. Si jamais vous nous écoutez, de Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinet, présenté à partir du 9 et ce jusqu'au 25 novembre, bien, je vous souhaite un bon succès. Et pour ceux et celles qui sont curieux, là, on peut télécharger l'application dont vous parlez si jamais vous nous écoutez sur Apple Store, et c'est disponible sur Google Play. Merci beaucoup, Maxime Carbonneau.
Merci beaucoup.